du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de l'année du coq à l'âne. Alors, à tout seigneur, tout honneur, hein, pour le dernier numéro, on a pris le boss, voilà, le king, le killer, le président en personne du département, Jean-Marie Bernard.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va bien.
Jean-Marie est avec nous. Alors, autour de la table, bien sûr, il y a une belle équipe, puisque Jean-Claude Héroux est là.
Oui. Bonjour.
Bonjour. Michel Roussel.
Bonjour.
Salut Michel. Christian Bouteillon.
Bonjour.
Voilà. Et votre serviteur. Alors, aujourd'hui, je vais tout vous dire, je suis un peu fatigué. Oui, je suis complètement fatigué par les conneries relayées par un camp ou par un autre. On parle bien sûr des gilets jaunes et tout ça. Hein. Nous sommes quand même dans un pays assez atypique avec un président qui met environ un mois à comprendre qu'il n'est pas seul à décider, qu'il a des relais sur le terrain et que le peuple aussi est important.
Quand je pense à ce que j'ai fait pour eux et que je vois comment ils me chient dans les bottes, je ne sais pas ce qui me retient de faire flamber leur cahut à ces cons.
Et qui du coup va demander à sa plume de lui prendre un petit discours sympa pour lundi soir ?
Moi, je bosse sur l'allocution télé de demain. L'autre là-haut est d'une humeur de merde. Alors, si on pouvait avoir une bonne nouvelle.
Alors, il y a les gilets jaunes, bien sûr, qui gueulent, mais à cause de quoi ? Bah, des taxes.
Qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait pas plaisir, moi, de taxer. Hein. Si je pouvais annuler toutes les taxes, je le ferais.
Oui, et qui, du coup, font la révolution. Mais une fois par semaine, quand même, hein, le samedi.
Je vois que c'est encore bien avancé cette semaine. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, les héros, à part se gratter les doigts de pied ?
Et les lycéens, qui eux font la révolution, mais alors le lundi, le mardi, le jeudi, et éventuellement, et le vendredi.
Ça ne veut plus rien dire, les lycéens. C'est des merdeux.
Alors, il faut
des trous du cul. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule.
Voilà, donc un petit clin d'œil donc, aux lycéens. Autrement, il y a les hommes politiques qui applaudissent dès demain pour, eux, poursuivre le blocage.
Je crois que la grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler.
Oui, et puis d'autres qui décident d'alléger l'exit tax. Vous savez, cette fameuse taxe qui lutte contre l'évasion fiscale.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a repoussé les limites, là. La classe mondiale.
Oui, et puis d'autres qui imaginent que l'attentat de Strasbourg a été fomenté par le gouvernement.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et encore d'autres qui se persuadent que le président élu n'a pas ou n'a plus la légitimité de son élection.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Eh oui, tout cela observé, bien sûr, avec des yeux grands écarquillés par le reste de la planète. Avec, par exemple, le New York Times qui titrait, il y a quelques jours, « Les gilets jaunes se révoltent à Paris, mais leur colère est ancrée plus profondément en France ». Le Canada, avec le quotidien canadien The Globe and Mail, qui dit « Macron lutte pour reprendre le contrôle après les pires émeutes qu'a connues le pays depuis mai 68 ». L'Espagne, El País, le mouvement a mis en évidence le manque de réaction et la réponse minimale d'Emmanuel Macron. La Grèce, avec le quotidien Efsine, qui dit « poussée violente et sans précédent des manifestants contre la politique néolibérale de Macron ». La Suisse, la Tribune de Genève, l'agonie en jaune de la 5e République. Le Royaume-Uni, le Times, Macron demande de nouvelles mesures policières après le saccage de Paris. En Italie, la Repubblica, le cauchemar jaune et la fragilité de Macron. Même au Brésil, on en parle, le quotidien El Globo, Macron essaie de dialoguer avec les manifestants. En Argentine, La Nation consacre une page aux gilets jaunes, Macron tente d'endiguer le conflit. Voilà l'image renvoyée par la France en ce moment, un petit peu partout dans le monde. Alors, il y a eu un début de désamorçage, hein, vous savez, lundi soir, une main tendue qui est revenue en pleine tronche du président avec des gilets jaunes qui n'en veulent pas. Alors, ça sera ma première question, Jean-Marie, tu as suivi évidemment le mouvement. Et tu as suivi l'allocution de notre président lundi soir, la réaction après ça. Alors avant et après peut-être, la première réaction et la deuxième.
La première réaction, c'est que avant le 17 novembre, moi on m'avait demandé mon avis sur cette manifestation qui s'annonçait. Je trouvais que cette manifestation, elle avait un peu du sens à cette époque-là, parce qu'on voyait des gens non concitoyens, qu'ils soient jeunes, vieux, retraités, salariés, travailleurs, employés, qui avaient des difficultés à joindre debout et qui le disaient à longueur de champ. Donc je trouvais cette revendication un peu légitime et je pensais que c'était de nature à pouvoir faire évoluer les choses et puis le comportement de ceux qui nous gouvernent. Alors, on a entendu beaucoup de choses pendant cette période-là et moi, il y a des choses que je ne peux pas accepter quand on est dans un grand pays comme la France et qu'on dit aujourd'hui, on constate au XXIe siècle que les travailleurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc ça interroge et on doit trouver des solutions à nos concitoyens, quels qu'ils soient. Alors, je ne parle pas des extrémistes qui sont là pour casser du flic quand il y a du flic ou pour manifester sans savoir pourquoi on manifeste. Mais quand même, quand on voit tous les gens qu'on croise sur les ronds-points depuis un mois, ça mérite une interrogation et surtout, ça mérite de trouver des pistes, des solutions. Alors, les solutions aujourd'hui, moi, il me semble que le gouvernement, même s'il a tardé un peu, il a bougé un peu.
Donc le discours lundi soir.
Le discours de lundi soir, il a bougé un peu. Je pense qu'on doit, tous nos concitoyens doivent l'entendre. Et surtout, il faut que la France reste la France et un pays où on écoute les gens, mais un pays où la démocratie a quand même essentiellement tous les droits et qu'on doit rester dans un état de droit. Et moi, je demande aujourd'hui, après ce qui s'est passé, et surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, on devrait retrouver le calme et on devrait inciter les uns et les autres, nous les élus, aussi. Moi, on m'arrête sur les barrages. Quand je circule, on me reconnaît. Bon, eh ben, je vois les gens qui sont là. Ils sont dans un état, pas de désespoir, mais d'interrogation forte. Et les réponses qui ont été données lundi par le président de la République et après par le gouvernement doivent être de nature à les rassurer un peu, même si c'est pas suffisant pour eux. Enfin, il faut que le calme revienne vite sur les routes françaises.
Allez.
Oui, ben donc.
Enchaîne.
Alors, le côté positif aussi, c'est que le contribuable s'est posé la question depuis des années sur la gabegie des ronds-points et cet argent. Ben, là, au moins, les ronds-points, ils ont servi à quelque chose. Et. Et ce qu'il faudrait aussi, quand même, c'est que. Il faudrait qu'ils arrivent à s'entendre avec Macron, parce que de toute façon, la porte est ouverte, on est bien d'accord, le dialogue est ouvert.
On a le sentiment qu'il y a une ouverture lundi soir. Alors, elle n'est pas grande, mais moi, je pense qu'il faut y aller.
Voilà, surtout que Macron, c'est quelque part le premier des Gilets jaunes. Parce qu'il est arrivé, on ne sait pas d'où, il a mis tout le monde par terre, il a tout chamboulé, tout seul.
Oui, non, c'est vrai.
Sauf que lui, il est tout seul avec lui-même. Donc, son discours est audible. Le problème des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y en a aucun qui a le même discours. Il y en a un qui veut enlever ci, il y en a un qui veut rajouter ça. Il n'y a pas d'unité,
de
revendication.
Ils n'ont pas de tête.
Voilà. Alors, je fais de l'humour, mais en même temps, je trouve ça triste et grave. Et il faudrait bien que ça s'arrête quand même, parce que 6 morts, 1500 blessés, c'est pas de la rigolade.
Oui, une économie en berne aussi.
Voilà.
Il faut le noter aussi, c'est important, parce qu'on peut dire, oui, mais bon, il y a une revendication légitime, d'accord.
Voilà.
Mais cette revendication légitime ne peut pas empêcher le pays d'avancer.
Voilà. Enfin, et je suis d'accord pour dire que quand même, ne pas vivre son travail, c'est tout à fait anormal. Et avoir un travail et dormir dans sa voiture, c'est inacceptable.
Oui. Avant de donner la parole à Jean-Claude, Michel.
Eh bien, moi, je suis effectivement du même avis que le président. Ce qui m'a plu, effectivement, c'est un mouvement de la nation. Ça a effectivement éjecté le monde politique et les corps intermédiaires. Parce que derrière, il y a eu tellement de choses qui ont été inacceptables depuis des décennies qui aujourd'hui, bah, effectivement, le commun des mortels a réagi. Alors là-dessus, effectivement, on peut considérer que c'est assez noble. Après, c'est vrai que du fait que ça perdure, du fait effectivement que le président s'est senti, quand il a fait son élocution, personne n'aurait voulu être à sa place. Pour être très objectif, ça a dû être très dur pour lui. Et par contre, il a loupé le wagon, parce que la France, elle doit être réformée. Et plutôt que de faire des réformes de ci, de là, on déshabille Pierre, on déshabille Paul, etc., c'est une désolation. Aujourd'hui, si on veut être un pays moderne, il faut réformer la France, c'est réformer le principe politique. Le principe de gouvernance, il va falloir le recadrer. Parce que ça, même si on considère que c'est bien fait, ça ne correspond plus à la société. Je prendrai la constitution de Gaulle de 1958. Ce qui se produit, c'est que de 1958 à aujourd'hui, la nation, la société a changé. Et le monde politique n'arrive pas à percevoir ça.
La cinquième a été taillée sur mesure pour de Gaulle.
Et tant mieux à l'époque. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, ça ne peut plus correspondre.
C'est ce que dirait Jeannot s'il était là. Jeannot, alors, si tu nous écoutes.
Oui, quant à de Gaulle, c'est un homme prodigieux, etc. Mais de Gaulle, c'est derrière, c'est le passé. Il faut s'éloigner du passé, mais aujourd'hui, il faut s'orienter devant. Et de Gaulle, aujourd'hui, s'identifier au gaullisme, c'est rétrograde. Pour moi, ça finit par être d'un temps passé. Il faut être novateur. Macron a été un homme jeune qui n'avait pas d'antériorité politique et à qui on a donné un semblant. Il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu en réserve pour voir ce qu'il allait faire. Il est dynamique, il est dans sa posture de président, il est exceptionnel, mais vraiment, c'est un personnage intelligent. Et probablement, il est allé un peu trop vite. Il a cru qu'il avait quand même derrière lui un semblant. Et non, probablement parce qu'il avait, il a peut-être une vision de la sortie de crise pour la France, mais pas forcément pour les Français.
Tu sais, Michel, que là, ce que tu viens de dire, il y a des gens qui t'écoutent qui sont en train de faire des bonds dans tous les sens. Hein, quand tu dis qu'il est un homme exceptionnel.
Tu as remarqué que je suis resté
zen. Je t'ai dit que je te donnerais la parole après.
Je partage pas du tout.
Mais non, mais l'avantage, c'est que autour de cette table,
il a rien d'exceptionnel.
Chacun a son avis. Voilà. Chacun a son avis.
Alors, puisqu'on est en démocratie, semble-t-il en France, on a le droit de s'exprimer. Je dis, on a le droit. Et pour le coup, si vous allez sur certains forums, vous vous faites tacler parce que vous avez un avis.
Oui, oui.
Un avis n'étant pas un conseil, puisqu'un conseil, c'est présomptueux des fois. Eh bien, on peut être partiellement d'accord sur certains faits. Je répète, la posture d'Emmanuel Macron en tant que président, il est exceptionnel. Quand il est dans les autres pays et tout, il est vraiment à l'aise. Il est allé vite. On ne peut pas trop lui reprocher. Est-ce que c'est lui qui a raison ? L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, effectivement, il y a des gens, vous le dites à juste titre, mais ça, c'est sociétal, vous le dites à juste titre, il y a beaucoup de gens qui ne gagnent pas leur vie. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui gagnent très, 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 très bien leur vie. Et ce qui se produit, c'est qu'on a, je vais faire une image, et notamment, je vais faire référence aux violences qui ont été faites, qui se sont produites dans certaines villes, et notamment à Paris, sur les Champs-Élysées. On a les casseurs, entre guillemets, des rues, mais on a aussi les casseurs d'autres latitudes. Donc, les gens qui sont peut-être des décideurs, des riches. Et au milieu, on a les cassés. Et les cassés, c'est qui ? C'est effectivement les gilets jaunes, mais pas que. Il y a aussi la couche des Français moyens qui sont à 2000, 2500, 3000 euros et qui rament. Aujourd'hui, expliquez-moi comment on peut payer davantage, quitte à doubler le SMIC. Expliquez-moi comment vous allez acheter vos produits, puisque c'est indexé sur la main-d'œuvre. Expliquez-moi comment on va générer un nouveau consumérisme, c'est-à-dire une nouvelle méthode économique. Il faut m'expliquer comment on va faire. Parce que le syndicalisme a échoué depuis très longtemps. Et ils se sont fait prendre aussi la main dans le sac. Ils sont rejetés. Donc aujourd'hui, moi, une fois de plus, je ne peux pas soutenir effectivement les gilets jaunes vitam aeternam, parce qu'aujourd'hui, ils vont effectivement aller au-delà et il faut qu'ils s'arrêtent. Là, il faut qu'il y ait une trêve. Il faut qu'ils s'organisent aussi, c'est clair. Mais pour le coup, il faut reconstruire notre pays. Ça, c'est un espoir.
Alors, une analyse qui sera partagée par certains autour de cette table, mais peut-être pas par Jean-Claude Hérault, qui a l'air d'être un petit peu...
Non, moi, je
un petit peu chafouin, on va dire.
Moi, je continue à soutenir les gilets jaunes, je suis clair. Je les soutiens parce que depuis des années, voire plusieurs années, je dis qu'on ne peut pas continuer dans un pays avec de telles injustices, avec de telles inégalités. Combien de fois je l'ai dit à cette antenne, vous êtes obligé de le reconnaître.
Bien sûr, mais depuis...
Chaque fois, j'ai attiré votre attention
depuis que tu participes au coq à l'âne,
sur le fait qu'on a des inégalités et que ces inégalités, forcément, un jour ou l'autre, allaient nous amener à... Alors, on parle de révolution, faut pas mettre des grands mots, mais à une réaction du peuple.
Quels que soient les gouvernements.
Mais moi, je parle... Mais arrête avec ça.
Le sujet n'est pas politique, là. Je voudrais savoir si ça fait bien 40 ans.
Lui, il a pu parler, moi, je peux jamais parler.
Mais laisse-le finir.
Mais il s'énerve vite.
Tu fais gauche-droite. Faut arrêter avec ça. C'est pas un problème de gauche-droite. Je peux parler, tous les gouvernements de gauche et de droite et tous les élus de gauche et de droite, ils se sont assis sur les injustices et sur les inégalités. Et aujourd'hui, tout le monde s'étonne. Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Eh bien, moi, je les félicite, ce peuple, parce qu'il fallait que le peuple, un jour ou l'autre, il aille dans la rue. Je ne savais pas que ça allait être des gilets jaunes. Je ne savais pas sous quelle forme ça allait arriver. Mais je me doutais bien que ça allait arriver. Je me suis dit, peut-être ça arrivera, je ne serai plus là. Mais ça arrive et je suis encore là. Je suis encore en vie. Donc, voilà, ça arrive. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est une très mauvaise gestion de la crise. Mmh. Très mauvaise. Le président prend des jours et des jours avant d'intervenir. Mmh. Et quand il fait des propositions, on peut en parler quand même de ces propositions. Enfin, entre nous, il annonce... Alors, c'est vrai que c'était très astucieux, l'augmentation des salariés payés au SMIC. Mmh. Pas du SMIC, des salariés payés au SMIC. Et quand on regarde ces propositions, moi, je les ai regardées un peu dans les détails. C'est qui va payer l'augmentation des salariés payés au SMIC ? C'est les contribuables. Les contribuables. Parce que le SMIC, il va augmenter. On commence à nous annoncer 1,8%. Il y a une inflation à 2,2. On va avoir une augmentation du SMIC de 1,8. Mmh. La fameuse augmentation de 100 euros, c'est à la fois l'augmentation mécanique plus la prime d'activité qui est anticipée.
Oui, donc c'est anticipé quand même.
Oui,
c'est-à-dire qu'en fait, il ramène tout ce qui devait se faire étalé sur 5 ans, il le fait dès le mois de janvier.
Sauf que Thierry, il y a un problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les médias commencent à en parler. c'est que pas tous les smicards vont en bénéficier.
Il y a un million et quelques de smicards qui ne sont pas effectivement
qui vont pas en bénéficier. Et tous ceux qui étaient en dessous du SMIC vont pas en bénéficier. Tous ceux qui étaient très légèrement en dessous du SMIC
vont
pas en bénéficier. Donc les mesures de Macron ne règlent absolument rien. Et c'est d'ailleurs les derniers sondages de ce soir, tu as dû les voir. Les derniers sondages montrent que les Français, il y a plus de 5% de Français qui soutiennent l'action des Gilets jaunes. Il y a une remontée du soutien de la population. Ce qui démontre bien que les gens, ils ne sont pas bêtes. Parce que toutes les mesures qu'annonçaient par Macron, par exemple, les mesures concernant la CSG des retraités.
Oui.
On nous dit 2000 euros. Mais on sait, c'est 2000 euros de quoi ? C'est un retraité qui gagne moins de 2000 euros, mais le foyer fiscal, on le prend sous quelle forme ? C'est sur quelle base le foyer fiscal ?
Qui ont moins de 2000 euros par mois de pension, oui.
Non, mais c'est le foyer fiscal. Ce n'est pas le foyer fiscal.
C'est 2800 ou un truc comme ça.
Alors, on ne sait pas encore. Ça sera, tu as raison, Michel, autour de 2800. Ah. Parce que moi, à un moment, je me suis dit, ça va être 2 fois 2000. Il ne faut pas rêver. Ça ne sera pas 4000, le foyer fiscal. Ça va être entre 2000 et 3000.
Voilà.
Voilà. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien la démonstration. Parce que les gens, ils se sont crus. Ah ben, moi, je gagne moins de 2000 euros de retraite. Alors, je vais être exonéré de l'augmentation de la CSG. Et non,
Jean-Claude, après, je veux dire, c'est aussi une escalade. On entend maintenant dire pourquoi il s'est arrêté à 2000 euros. Bon, on peut imaginer que ceux qui ont des retraites qui sont supérieures à 2000 euros, ben on peut attendre un peu avant de s'en préoccuper.
Non, mais si tu veux, c'est le flou qui est insupportable.
Oui, mais Jean-Claude, tu as évoqué une chose juste. Tu as dit que de toute manière, c'était le contribuable qui allait payer, le contribuable. Ben oui. Alors, au plus tu fais plus, au plus le contribuable va raquer. Et pour le coup, à un moment donné, il faut apporter de vraies solutions. La critique, elle est intéressante, mais à un moment donné, faut s'arrêter de critiquer, il faut trouver des solutions.
Alors,
il va y avoir un débat
le
là,
contribuable,
pour moi.
Je donne la parole. Le contribuable paye, évidemment, parce que les impôts, il faut bien les payer. Il faut savoir aussi, il ne faut pas oublier une chose qui est importante, et ça, j'ai étonné que tu n'en parles pas, c'est qu'il y a quand même en France 57% des Français qui payent l'impôt pour 53% qui ne le payent pas. Donc, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire que c'est très important, ça. Et il n'y a personne qui en parle.
C'est l'impôt sur le revenu.
Il y en a qui en parlent.
Uniquement.
Il faut faire un impôt progressif. Il faut créer de nouvelles tranches.
Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bossent et qui payent pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer. Donc, est-ce qui leur permet d'avoir accès à l'école, d'être soigné aussi, à la santé et à des tas de choses comme ça. Donc je pense que notre système est peut-être pourri, mais pas tant que ça. Je pense qu'il est à dépoussiérer, mais il ne faut pas jeter le bébé avec le bain.
Je suis d'accord
avec toi.
Moi,
je pense qu'il faut y aller doucement.
Je suis d'accord, il y a des valeurs qu'il faut garder.
On est d'accord.
Il y a des principes qu'il faut garder. Hein.
Non, mais il y a des moments où il ne faut pas prendre des comparaisons, il faut arrêter de faire des comparaisons avec ce qui se passe dans d'autres pays, même européens, parce que le niveau de vie, l'organisation sociétale dans les pays.
Ouais, la culture sociale.
La culture sociale est complètement différente. Ouais. Et puis, moi, aujourd'hui, je pense que je préfère être français quand je suis malade que d'être anglais ou d'être allemand.
Donc, ou même américain.
Qu'est-ce que vous pensez des jeunes Français qui partent travailler ailleurs parce qu'ils sont peut-être un peu désabusés de notre système et du principe de notre société ?
Vas-y.
Parce que je veux dire, c'est pas neutre. S'il y a entre 100 et 150 000 jeunes qui partent travailler ailleurs.
Il y en a qui partent, mais il y en a qui viennent.
Il y en a qui viennent.
Ils viennent d'ailleurs. Là, je pose pas cette question. Je dis tout simplement, les Français qui ont effectivement cette couverture sociale, qui partent travailler en Amérique, en Inde, ou en Chine, etc., et bien ailleurs, ils font pas cas du principe de ces avantages. Ça veut dire que, pour moi, j'applaudis, et je trouve qu'ils sont très courageux.
Ils sont courageux, mais
ça fait partie de l'expérience.
Mais je pense quand ils reviennent en France après, ils sont contents.
Ils sont contents de revenir.
Ça fait des bons Français, ça fait des bons
patriotes. Ils sont contents, ils se rendent compte de la valeur de ce qu'il y a chez nous, même si tout n'est pas parfait, Christian.
Et ils le disent.
Alors je vais faire comme les saumons, je vais remonter le cours d'eau pour en revenir aux jeunes là qui s'en vont. Ceux-là, ils s'en foutent de la protection sociale. On n'est pas malade à 20-30 ans, on est en pleine bourre. Oui. Et puis on a envie d'aventure, on est content d'y aller.
L'expérience. Ça, c'est bien.
Ensuite, ces fameux 2000 euros qui subiraient pas la remontée de la CSG, c'est ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence, ce qui compte.
Le revenu fiscal, pas le foyer fiscal.
C'est-à-dire que si madame a une retraite de 900 euros...
C'est le foyer fiscal, c'est le revenu du foyer fiscal.
Je prends l'exemple d'un commerçant, commerçants, parce que c'est souvent leur cas, où ils ont des très petites retraites, mais comme ils ont été des bons Français, des bons pères de famille, ils ont peut-être 1 500, 2 000 euros de loyer qui tombent, qui en plus sont grévés par l'augmentation de la taxe foncière.
Ah bon, il y a longtemps qu'on en avait pas parlé.
Ça, c'est pour le président. Ça.
On va en parler.
Et donc, la petite retraite de, on va dire, 900 euros, si à côté, tu as 1500 euros de revenus de foncier, eh bien, tu dépasses la barre. Tu payes la CSG plein pot surtout.
Le calcul n'est pas fait comme ça.
Ah ben, si.
Ah, moi, je suis pas spécialiste.
Il est comme ça.
Non, mais la CSG, elle va s'appliquer sur la base de ta retraite.
Moi, j'ai cet exemple.
C'est le foyer fiscal.
C'est le foyer fiscal de référence.
Non, mais le foyer fiscal, parce que s'il y a un couple, il y a forcément.
Non,
peut-être
non,
ça, mais...
Non. Bah, écoute, moi, j'ai l'exemple. Ma femme a pris sa retraite avec... Non, mais elle a pris sa retraite avec continuation d'activité. Un, elle cotise pour zéro, parce que ça lui engendre pas de points en plus. Et deuxièmement, comme moi, j'ai des revenus fonciers à côté, eh ben, c'est le foyer fiscal, le revenu fiscal de référence, qui fait que ces 800 euros sont assujettis plein pot à la CSG.
Mais oui, mais c'est ça, c'est bien ça le problème.
Voilà.
Tu as tout à fait raison de le poser, Christian.
On est d'accord.
Sur ce point, je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Et ce qui s'est passé dans la campagne Macron, je me permets de le dire, c'est qu'il n'a pas annoncé.
C'est pas clair.
Du moins, ils ne l'ont pas compris
comme ça.
Et dans ce qu'il a annoncé... alors vous dites lundi, il me semble que c'est mardi, mais un peu on s'en fout. Ce qu'il a annoncé Macron.
Oui, c'était lundi ou mardi. Ou...
Ouais, peu importe. Oui. Ce qu'il a annoncé Macron dernièrement.
Non, c'était lundi.
Ce qu'il a annoncé donc lundi soir, c'est très ambigu. Parce que moi j'ai réécouté ce qu'il dit exactement. Il dit pour les retraités qui gagnent moins de 2000 euros de pension par mois. Mais on ne sait pas pour les autres. Pour quand il y a un foyer, quand il y a un couple, là...
C'est le revenu fiscal de référence qui fait la
base. Je suis d'accord avec toi.
Alors, je finis de remonter le cours d'eau, et, parce qu'il a dit à sa manière ce que
je voulais
qu'il me dise, mais il s'est énervé.
Non,
donc,
je ne suis pas énervé.
Ça fait bien 40 ans que le peuple subit ce joug et qu'aujourd'hui, ça pète. Et ce qu'il faut constater quand même, c'est que c'est Macron qui a permis que ça pète.
Oui. Bah, peut-être.
Merci Macron.
Si tu raisonnes par l'absurde.
Mais ça aurait pu arriver à d'autres.
Ah non, les autres, ils savaient bien gérer le business.
Ouais,
ils savaient bien jouer du violon, les autres.
Non, c'est pas qu'ils savaient jouer du violon.
Oh, dansons la Carmagnole, vive le sang.
Non, pas du tout. C'est que les autres, ils avaient au moins l'honnêteté de s'appuyer sur ce qu'on appelle les corps intermédiaires. J'aime pas trop ce terme, le problème, c'est que Macron, depuis qu'il est arrivé, 18 mois, il s'en foutu des élus. Il y a un élu autour de la table, il nous dira s'il est d'accord. Les élus, on n'en a rien à foutre. Les organisations syndicales non plus.
On s'en fout.
Et aujourd'hui, tout d'un coup... Alors, ce qui est quand même risible dans tout ça, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est qu'il va y avoir 3 mois de débat, là. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 3 mois de débat? Il fait appel à qui? Il fait appel aux syndicats, aux élus, aux associations, à tous les partenaires sociaux.
Tu dois être content.
Ben oui, mais tout d'un coup, il se réveille.
Mais
tout
non,
d'un coup, il les retrouve.
C'est quand même étonnant. Il est en train de voir que... Il est obligé de devenir comme les autres.
Le mieux tard que j'avais. Regarde, pense à toi,
Non, mais moi, je suis plus rien, moi.
Il est obligé de devenir comme les autres. Et on va voir un président Macron qui va rentrer dans le moule et qui va faire comme tout le monde.
C'est dommage.
Et donc, on verra bien.
Et pourtant, il était exceptionnel, d'après Michel.
On va marquer une pause. On va marquer une pause et on revient dans un instant.